C'est notre frère qui nous apporte le conseil de Dieu ce soir. Dieu le bénisse. En tous les cas, on le remercie de vouloir prêcher, d'avoir prêché. Ouais. Merci Seigneur d'avoir répondu à l'appel.
Et merci en tout cas pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir d'être au milieu de vous. Et voilà, oui, Monsieur Vasile m'a demandé si j'étais d'accord pour prêcher ce soir. Et vraiment, c'était avec joie que j'ai dit oui et qu'on puisse ce soir partager ensemble la parole de Dieu. Alors, je vous avoue que cette fois-ci, ça n'a pas été facile à préparer. Vous savez, des fois, quand on prépare des messages, des fois, il y a certains combats. Et je vous avoue que pour celui-là, ça a été un petit peu difficile, mais on va compter sur la grâce de Dieu pour qu'il nous conduise au travers de sa parole. Donc, je vous invite de suite à ouvrir vos livres vos Bibles, pardon, dans l'Apocalypse, au chapitre 1er. On va lire à partir du verset 10. Apocalypse, chapitre 1er. On va lire à partir du verset 10. C'est l'apôtre Jean qui va avoir une révélation. D'ailleurs, le mot apocalypse, c'est ce qu'il veut dire, révélation, de ce qu'il va se passer à la fin des temps. Ses yeux vont être ouverts, il va même être transporté pour voir les choses qui sont spirituelles. Et donc, on lit au verset 10, donc Apocalypse chapitre 1er verset 10, Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Verset 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Amen. Amen. Donc dans ce texte, nous voyons Jean qui va avoir une révélation et il va voir Jésus dans la gloire. On ne l'a pas lu, mais il y a toute une description de Jésus et on voit à quel point il était glorieux. Et à un moment, même au verset 17, c'est écrit que quand il va le voir, il va tomber à ses pieds comme mort. Donc là, il va vraiment voir Jésus dans la gloire. Lui qui a connu Jésus crucifié, Jésus ressuscité, va voir Jésus glorifié. Et ça va être impressionnant. Mais on va voir, ce qu'on a lu, c'est que lorsqu'il va le voir, il va le voir entouré de sept chandeliers d'or. Et au verset 20, il nous est dit que l'explication de ce symbole, c'est que les sept chandeliers, ce sont les sept églises. Donc on voit dans ce texte que les églises sont représentées par un chandelier tout en or. Et c'est de ça dont j'aimerais parler ce soir. Un chandelier tout en or. Les sept églises, on voit qu'il y a eu l'église de Laodicée, de Smyrne, de Pergame, etc. Chaque église est représentée par un chandelier tout en or. Donc on peut faire ce rapprochement qu'une église, c'est un chandelier. Vous êtes le chandelier d'Aubagne. À partir du moment où il y a une église à Aubagne, cette église peut être considérée comme un chandelier. En tout cas, c'est cette révélation que Jean va avoir. On peut se poser cette première question, mais à quoi ça sert un chandelier? Le chandelier, c'est quoi? Bah, c'était la lampe de l'époque. À l'époque, quand ils se promenaient, ils avaient des chandeliers. C'était la lampe torche de l'époque. Les chandeliers, à quoi ça servait? Bah, ça servait à éclairer les choses. Quand quelqu'un marchait dans la nuit noire, il avait un petit chandelier pour pouvoir s'éclairer. Quand il faisait sombre dans la maison, les Hébreux plaçaient un chandelier pour pouvoir éclairer tout ce qu'il y a dans la maison. Le but d'un chandelier ou d'une lampe, c'était d'éclairer, d'éclairer. C'est d'être une lumière. Et c'est vrai que si on n'a pas de lumière, c'est un petit peu compliqué. À quoi ça sert la lumière? La lumière, ça sert à éclairer quelque chose. Quand j'ai besoin de voir plus clair, par exemple dans une salle, généralement, j'augmente la lumière. Je me rappelle, par exemple, quand j'étais encore célibataire, je me rappelle avoir fait le ménage. Et puis, à un moment, il y a eu un éclair de lumière, un rayon de lumière qui est rentré chez moi. Et finalement, avec la lumière, j'ai vu que je n'avais pas si bien fait le ménage que ça. Il y avait de la poussière sur certains meubles que j'avais mal lavés. C'est la lumière qui a révélé la saleté. Quand il y a de la lumière, on voit. Ou par exemple, si vous roulez en pleine campagne, en pleine nuit, il n'y a pas la lune, c'est couvert par les nuages et que vous coupez les phares de la voiture, il ne faut pas bien longtemps pour que vous ayez un accident. Parce qu'on a besoin de lumière pour voir. Sans lumière, je ne peux pas voir. Donc, le chandelier, c'est le porteur de lumière. Et l'Église est considérée comme une lumière. Mais quand on allume un chandelier, vous êtes bien d'accord que le but du chandelier, ce n'est pas de s'éclairer lui-même, c'est d'éclairer quelque chose. Une lumière, elle n'a pas pour but de s'éclairer elle-même, elle éclaire quelque chose. On voit que les chandeliers étaient autour de Jésus. Le but de l'Église, c'est d'éclairer, c'est de mettre la lumière, mais particulièrement de mettre la lumière, d'éclairer, de rendre visible le Seigneur. Jésus dira, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 13, en parlant à ses disciples, il dira « Vous êtes la lumière du monde ». L'Église est considérée comme une lumière dans le monde. Un peu comme Jésus qui dira lui-même « Je suis la lumière du monde ». Lorsque Jésus a dit qu'il était la lumière du monde, qu'est-ce qu'il nous a montré ? Jésus dira à Philippe, c'est dans Jean chapitre 14, que celui qui l'a vu a vu le Père. Lorsqu'on regarde à Jésus, il y a la lumière qui est faite sur le Père. Lorsqu'on regarde à Jésus, l'amour du Père est révélé. Lorsqu'on regarde à Jésus, la miséricorde, la compassion de Dieu sont révélées. Parce que Jésus est la lumière qui nous révèle qui est le Père. Et de la même manière, l'Église est la lumière qui révèle au monde qui est Jésus, qui est Dieu. Le but d'une Église, c'est de sauver ceux qui sont perdus. C'est d'être une lumière dans ce monde. Le but d'une église, c'est que lorsque l'on est dans une ville, lorsque l'on côtoie les personnes autour de nous, la lumière soit faite sur, par exemple, le péché. Vous savez, comme une lumière révèle les tâches, l'église, elle révèle que le problème du monde, c'est le péché. Mais elle révèle aussi la solution, c'est l'amour de Dieu. Que Dieu pardonne le péché et qu'il y a une espérance, l'espérance de la résurrection. C'est le but de l'église. Vous êtes le chandelier d'Aubagne, c'est-à-dire que vous avez la responsabilité à Aubagne d'éclairer le Seigneur Jésus et de révéler les choses qu'on ne peut pas voir s'il n'y avait pas de chandelier. Et la question qu'on peut se poser, mais c'est comment bien faire pour remplir cette mission ? Comment être le chandelier que Dieu va utiliser pour illuminer le monde ? Donc, on voit quelques caractéristiques de ce chandelier. Et le chandelier d'or, il n'y a pas que dans l'Apocalypse qu'on le voit. On le voit dans deux textes notamment. Alors, si vous prenez des notes, c'est dans Zacharie chapitre 4 et dans Exode chapitre 37, où il nous est parlé aussi du chandelier d'or. Zacharie aura une vision aussi céleste, où il va voir ce chandelier. Et puis, dans Exode, c'est Moïse qui va le décrire, mais lui aussi, il va le décrire selon le modèle qu'il aura vu dans la présence de Dieu. Donc, il y a vraiment une notion de quelque chose qui est céleste dans ce chandelier. Et ce chandelier, il y a quelques caractéristiques qu'on peut noter, notamment qu'il était en or pur. Dans Zacharie, on voit qu'il était alimenté en huile. Dans Exode, on voit qu'il était d'une seule pièce. On voit qu'il était d'or battu. Et on voit que dessus, il y aura des fruits qui sont sculptés sur ce chandelier. Mais donc, on ne va pas pouvoir voir toutes ces caractéristiques, parce que sinon, ce serait très, très, très long, et ce n'est pas le but. Mais en tout cas, on va voir quelques-unes. Donc, si on va ensemble dans Zacharie au chapitre 4, on va voir cette vision que Zacharie va avoir. Donc, livre de Zacharie au chapitre 4. Zacharie va voir ce chandelier. Il va avoir une vision. Donc, Zacharie, chapitre 4, et on peut lire à partir du verset 1er. « L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu ? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite du vase, l'autre à sa gauche. En prenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors, il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Amen. Donc, on voit ce chandelier tout en or, mais là, il y a des détails en plus. On voit que ce chandelier, il nous est dit au verset 3, qu'il y avait près de lui deux oliviers, l'un à la droite et l'autre à la gauche du vase. Que ce chandelier, il avait un vase et que notamment, il était alimenté en huile. Et ça, c'est la première chose que l'on pourrait voir par rapport à ce chandelier. Pour que le chandelier éclaire, il faut qu'il soit alimenté. Le chandelier, il n'a pas la lumière en lui-même. Le chandelier, il ne fait juste que porter la lumière ou la transmettre. Si par exemple, j'ai une lampe torche, si je n'ai pas de pile, elle ne pourra pas éclairer. Parce que la force dont la pile a besoin pour éclairer se trouve dans les piles, mais pas en elle-même, comprenez ? Une lampe, quelle que soit la technologie, a besoin d'énergie pour éclairer. Elle ne peut pas s'éclairer toute seule. Et ça, c'est un principe spirituel pour l'Église. L'Église ne peut donner que ce qu'elle a reçu d'abord. Je ne peux donner que ce que j'ai reçu. La Bible dit aussi, qu'as-tu que tu n'aies reçu. Dans le livre des Actes, au chapitre 1er, au verset 8, il y a cette promesse de Jésus, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous voyez, il y a un ordre. Vous recevrez une puissance et vous serez. Il y a un ordre. Je ne peux être le témoin du Seigneur, qu'à partir du moment où je reçois ce dont j'ai besoin pour l'être. Et au verset 6, dans Zacharie, il nous est dit que concernant Zorobabel à cette époque-là, c'est-à-dire celui qui gérait la restauration du temple, l'ange va lui dire « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et vous savez que cette huile qui alimentait le chandelier représente le Saint-Esprit. Par moi-même, l'Église par elle-même, toute seule, ne peut pas éclairer. Elle a besoin de recevoir et d'être constamment dans la présence du Saint-Esprit. La force du témoignage ne vient pas de l'Église en soi. La force du témoignage vient de la présence du Saint-Esprit. Une église par elle-même ne peut pas générer toute seule la lumière, mais par contre, une église peut être le canal, le chandelier, où l'huile va couler et où la lumière va se faire. Et ça, c'est la première chose dont il faut être conscient. C'est que pour qu'une église soit ce témoin, il y a besoin de la vie de l'Esprit. Et quand on regarde les premiers disciples, c'est vrai qu'en une journée, il y a eu beaucoup plus que tout ce qu'ils auraient pu faire par leur force. Vous avez vu la prédication d'un seul homme qui en plus avait renié le Seigneur quelques jours avant, et 3000 âmes vont être touchées par le Seigneur. Est-ce que c'était Pierre qui était fort ? Est-ce que c'était les 12 qui étaient forts par eux-mêmes ? Est-ce que c'était les 120 qui étaient forts ? Non, c'était le Saint-Esprit qui, lorsqu'il est venu, a bouleversé Jérusalem, et au final, par répercussion, tout le monde après. L'Esprit de Dieu peut faire en un instant tout ce que les chrétiens réunis ne pourraient pas faire pendant des décennies par eux-mêmes. Vous savez, ressusciter un mort spirituellement, que quelqu'un naisse de nouveau, aucun homme ne peut le faire. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Sauver les âmes, c'est l'œuvre de Dieu. Mais nous, par contre, ce que l'on peut faire, c'est faire en sorte que le Saint-Esprit ait la liberté au milieu de nous de faire ce que lui seul est capable de faire. Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé son ministère, il a été oint du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Il dira, c'est dans Luc chapitre 4, L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle, etc., pour guérir les cœurs blessés. Le Seigneur Jésus, il était rempli de l'Esprit. Et c'est parce qu'il était oint et rempli de l'Esprit qu'il faisait l'œuvre et que l'œuvre prospérait entre ses mains. Les premiers disciples, ils ont attendu d'avoir cette onction, d'être oint de l'Esprit pour ensuite pouvoir être une bénédiction. Et de la même manière, si nous, on veut être une bénédiction comme eux l'ont été, il nous faut aussi chercher cette présence de l'Esprit. Et combien c'est important. Vous savez, lorsqu'il y a les cultes le dimanche, lorsque l'Église se réunit, est-ce que je travaille? Est-ce que je prie le Seigneur? Est-ce que je cherche à ce que la présence du Saint-Esprit soit là? Parce que lorsque je fais ça, lorsqu'une Église est d'accord et s'assemble pour que le Saint-Esprit puisse se manifester au milieu d'elle, alors il y a les choses qui changent. Parce que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Ça, c'est la première chose. Le chandelier était alimenté en huile. La deuxième chose que l'on voit, c'est que le chandelier, il était en or pur. En or pur. Il n'était pas en n'importe quel matériau. Il était en or et un or pur. Oui, l'Église doit être ce canal pour que l'Esprit Saint puisse manifester sa gloire, la gloire de Jésus-Christ. Mais l'huile, elle ne coule pas n'importe où. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est saint. Le Saint-Esprit ne demeure pas là où le péché est toléré et accepté. Dans la Bible, on voit le Saint-Esprit se manifester plusieurs fois. Alors bien sûr, on le voit dans l'Église, mais même dans l'Ancien Testament, alors qu'il y avait le temple, ou le tabernacle, on voyait que le Saint-Esprit se manifestait à certains moments. Mais il se manifestait quand le tabernacle ou le temple était fait selon le modèle et que tout avait été sanctifié. En fait, on voit dans la Bible que lorsque le temple ou le tabernacle, qui est l'image de l'Église, était sanctifié, se conformait au modèle et qu'il était sanctifié, la gloire apparaissait. C'était sous la forme d'une nuée. Vous savez, quand le tabernacle a été bâti et que tout a été fait selon le modèle, la nuée s'est manifestée. Le temple, pareil. Lorsque Salomon l'a fait selon le modèle, la gloire s'est manifestée. Et d'un autre côté, on voit, c'est dans le livre d'Ézéchiel, que lorsqu'il y avait du péché, que le temple était souillé, la nuée, elle s'en allait progressivement. En fait, le Saint-Esprit manifeste sa gloire et sa puissance là où il y a la sanctification. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, c'est écrit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous voyez ? Il y a la notion de voir, d'éclairer. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Le chandelier, il était fait en or pur. Il nous est parlé de pureté. L'or, c'est la sanctification. Et la sanctification, ça va avec la pureté. C'est quoi le contraire de la sanctification ? C'est le mélange. Lorsqu'il y avait le lieu saint ou les lieux très saints, ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que c'était des lieux qui étaient séparés du reste. Et le lieu très saint, c'était le lieu qui était séparé dans le lieu qui était déjà séparé. On voit que la sanctification, le contraire d'être sanctifié, c'est d'être mélangé. C'est un mélange. La sanctification, si on va par exemple dans 2 Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, on voit ce principe de se séparer du monde, de ne pas toucher à ce qui s'allie. C'est dans, par exemple, dans donc 2 Corinthiens chapitre 6, on peut lire à partir du verset 14. C'est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Vous voyez ? On voit la séparation. On voit qu'il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun lien, il n'y a aucun joug. Le joug, c'est ce qui attachait deux animaux ensemble, c'est le lien, c'est le lien. Il n'y a aucune attache possible, aucun lien possible entre, on voit la lumière et les ténèbres. Vous avez vu, il est parlé de lumière. La lumière et les ténèbres, pas de rapport possible. Le fidèle et l'infidèle, pas de lien possible. Christ et Bélial, le temple de Dieu et les idoles, etc. Et on voit qu'il nous est dit de se séparer, et en gros, après il redit dans une autre forme, il dit d'achever notre sanctification. La sanctification, c'est se séparer du péché, c'est se séparer du monde, c'est de conserver pur les choses qui sont sacrées pour Dieu. Et vous savez, la sanctification, il y a deux aspects. Autant il y a un aspect qu'on pourrait dire qui est personnel. Vous savez, c'est écrit qu'on est appelé à se sanctifier. Vous serez saints car je suis saint, dit l'Éternel. La sanctification personnelle, comment ça se produit ? La sanctification, c'est simple. C'est qu'à chaque fois que Dieu me montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie ou qu'il y a un péché, je le règle en comptant sur sa grâce. Comment ça se passe ? J'ai péché, je me suis sali. D'un seul coup, le Saint-Esprit est attristé, puisqu'il demeure dans celui qui est né de nouveau. Le Saint-Esprit attristé, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au final, il y a une tristesse qui est produite dans mon cœur. La Bible dit que c'est une tristesse selon Dieu qui mène à la repentance. Je prends conscience de ce qui attriste le Saint-Esprit, et donc m'attriste moi aussi, et je m'en repens. Je le confesse à Dieu. Puis je mets ma confiance dans le sacrifice de Jésus à la croix, où Dieu me pardonne. Et par le sang de Jésus, je suis purifié de mon péché et je redeviens saint, etc. Et marcher dans la sanctification ou marcher dans la lumière, c'est ça. Je vais lire dans Jean, dans la première épître de Jean. Alors ne le cherchez pas, c'est écrit au chapitre premier. C'est écrit la nouvelle que nous avons, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous voyez ? En fait, on voit ce principe de marcher dans la lumière. C'est qu'en fait, à chaque fois que je pêche, si je marche dans la vérité, le Saint-Esprit me le montre. Et bien, à partir du moment où il me l'a montré et que ma conscience est éclairée de ce péché, je le règle en comptant sur le sang de Jésus qui a coulé. Et la Bible dit que si je confesse mon péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est la sanctification qui est personnelle. Mais là, le chandelier, ça concerne l'Église. Et c'est vrai qu'on peut parler de la sanctification personnelle, mais il y a aussi une sanctification qui se fait au niveau de l'Église. L'Église, en tant que corps, doit se sanctifier aussi. Il y a une responsabilité globale, on va dire, qui concerne toute l'Église à se sanctifier. Autant le chrétien individuellement doit marcher dans la sanctification et se séparer de ce qui est le péché, mais autant l'Église doit aussi prendre position par rapport au péché. Et c'est ce que l'on voit par exemple dans Matthieu au chapitre 18, si vous venez avec moi. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18. C'est un texte qui nous parle justement de la discipline dans l'Église. Et en fait, on voit ce principe par rapport au péché, que l'Église ne peut pas, ne doit pas tolérer ce qui la souille, c'est-à-dire le péché. Verset 15, par exemple, Matthieu 18, verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, c'est-à-dire qu'il veut continuer à pécher, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Et c'est après qu'il écrit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel, etc. » On voit qu'il y a quelque chose de progressif. Et le but, c'est quoi? C'est que le péché n'ait pas sa place dans l'Église. Pourquoi? Parce que lorsque le péché est toléré dans l'Église, le Saint-Esprit est attristé. On voit qu'il y a quelque chose de graduel. Ça commence avec une seule personne. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le frère se repent, eh bien, c'est bon, on l'a gagné. Ça s'arrête là. Ça veut dire qu'il a pris conscience de son péché, il le règle, c'est bon. La sanctification s'est opérée. L'Église est propre. Mais s'il refuse d'écouter, c'est-à-dire qu'il persévère dans le péché, tu prends deux ou trois personnes, parce que peut-être que s'il n'écoute pas un qui ne prend pas conscience, avec trois, il prendra conscience. Là, s'il le règle, c'est bon. Tu l'as gagné. Le but, ce n'est pas de perdre, c'est de gagner. S'il n'écoute pas, dis-le à l'Église. Là, on voit que c'est à l'Église de prendre position. Donc, il y a une responsabilité sur l'Église de manière générale, de prendre position par rapport au péché. Et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il soit comme quelqu'un qu'on n'aime pas. Ça veut dire qu'il soit comme quelqu'un qui est perdu. Considère-le comme quelqu'un que tu dois sauver, mais pas comme quelqu'un qui fait partie de l'Église. C'est ça la sanctification au niveau de l'Église. On voit dans l'Église de Corinthe qu'à un moment, il y avait quelqu'un qui se nommait frère et qui péchait, qui avait fait un péché en plus très grave. Alors, on ne va pas le lire, mais vous pourrez le chercher. C'est dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Et on voit au final que les responsables de l'Église, ils avaient laissé faire le péché. Ils laissaient faire. Et à cause de cela, l'apôtre Paul va dire, « Mais savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Et à un moment, il va reprendre sévèrement les responsables de l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils laissaient faire le péché. Et en laissant faire le péché, au final, l'Église, c'était un peu comme du levain dans la pâte, ça fait tout lever. Ça se corrompt. Et à un moment, l'Église a une responsabilité par rapport au péché. Parce que si elle ne prend pas sa responsabilité de manière corporative, elle attriste l'Esprit-Saint et elle ne devient plus la lumière. Quand on regarde après la révélation que Jean va avoir de Jésus dans l'Apocalypse, il va s'adresser aux sept églises. Et aux sept églises, il va dénoncer certaines choses pour des églises. Alors, il y a des églises où c'est grave. Le Seigneur, il est carrément dehors. Vous imaginez? Le Seigneur Jésus est en dehors de sa propre église. Donc là, c'est que ça va loin. Mais à un moment, il va reprocher, par exemple, à l'église de Pergame qu'au milieu d'elle, il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, et notamment les Nicolaïtes. Il reproche à l'église qu'au milieu d'elle, ben, il y a une fausse doctrine. À l'église de Thyatire, c'est dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, « Tu laisses Jézabel enseigner et séduire, fausse prophétesse. » Vous voyez? Et à un moment, Jésus va reprocher ça à ces églises. Le chandelier, il est en or pur. Et à un moment, il faut faire attention à ne pas mélanger ce qui est saint avec ce qui est profane. À un moment, l'apôtre Paul, il va même aller dans un niveau de sévérité qui est l'un des plus durs dans le Nouveau Testament. Il va dire que si quelqu'un se nomme frère à une vie qui est dissolue, de ne pas avoir de rapport avec cette personne-là. C'est-à-dire qu'avec ceux qui se disent frères, mais qui pêchent, la discipline va au point où on ne peut plus nommer cette personne-là frère. Pourquoi? Parce que sinon, c'est l'intégrer dans l'Église et c'est souiller l'Église. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre ou pas. Mais en tout cas, il y a une sanctification. Et vous savez, par exemple, l'apôtre Paul va dire à Timothée, qui est un jeune pasteur, il va lui dire, n'impose les mains à personne avec précipitation, ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Et là, imposer les mains, ce n'est pas prier pour quelqu'un en mettant les mains sur lui. Là, imposer les mains, c'est s'associer. En gros, il dit à Timothée, ne t'associe pas à quelqu'un qui pêche pour ne pas participer à son péché. C'est ça que ça veut dire. Et à un moment, le lien qu'on a avec les gens, ça peut faire des mélanges. Bon, je ne sais pas si je suis clair, j'essaye de l'être, mais ce n'est pas facile. La sanctification, c'est se conserver pur. À partir du moment où il y a péché, il y a péché et qu'ensuite il y a repentance, ben la repentance, ça efface la souillure. Mais à partir du moment où il n'y a pas repentance, il faut faire attention. Car si je tolère au sein de l'Église que je forme le péché, et qu'à un moment, même si le pasteur se débat, les anciennes se débattent, mais que les membres de l'Église le tolèrent, ça ne peut pas marcher, parce que le Saint-Esprit sera attristé. Et c'est ça qui est important de réaliser, c'est que oui, le chandelier, il faut qu'il soit alimenté, mais l'huile, elle coule dans un chandelier qui est en or pur. Il y a besoin de sanctification. Je vois que j'ai encore un petit peu le temps, alors je continue. Si on va dans Exode au chapitre 37, on voit qu'il est dit, alors je vais vous le lire, que lorsque le chandelier a été, donc c'est Exode au chapitre 37, si vous prenez des notes, c'est au verset 17, c'est écrit, il fit le chandelier d'or pur, il fit le chandelier d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce. Six branches sortaient de ses côtés, trois branches du chandelier de l'un des côtés et trois branches du chandelier de l'autre côté. Il y avait sur une branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs et sur une autre branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en était de même pour les six branches sortant du chandelier. Bon, je vais plus loin, verset 22. Il est répété que les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. C'est répété plusieurs fois. Donc on voit qu'il était d'or pur, d'or battu. Alors ça, on va un peu en parler ce soir, mais l'or battu, ça, c'est les épreuves. Parce que vous savez que des fois, les coups peuvent façonner. Bon. Mais en tout cas, il est dit qu'il était d'une même pièce. Donc on voit un chandelier qui avait plusieurs branches, mais qui était fait d'une seule pièce. De quoi ça nous parle? Ça nous parle d'unité. Il y avait un chandelier d'une seule pièce. Une seule pièce. Et ça nous rappelle l'image que Dieu donne, notamment dans les Corinthiens, où il dit qu'il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Que chaque membre est différent, mais qu'ils sont pleinement unis par le même esprit. Plusieurs branches, mais c'est une seule pièce. Tout comme il peut y avoir plusieurs membres, mais un seul corps. Et c'est vrai que pour que le Saint-Esprit puisse se manifester, aussi que le chandelier soit ce chandelier tout en or que Dieu utilise, ben il est d'une seule pièce, unie. Et la Bible dit qu'on a été formé, en tout cas c'est écrit, alors je peux vous le lire dans Éphésiens chapitre 2. En parlant de Jésus, il est écrit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, donc là c'était parler du païen et du juif, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Donc en fait, ce texte nous dit que Jésus à la croix a réuni les juifs et ceux qui n'étaient pas juifs. Qu'en fait, la croix a renversé le mur de séparation. Et après, c'est écrit au verset 16, et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Donc on voit en fait que l'œuvre de la croix, elle détruit les murs, les séparations, et elle réconcilie, elle crée le lien. Et c'est vrai qu'à la croix, c'est là que Dieu détruit ce qui peut séparer et que Dieu unit ce qui est séparé. L'œuvre de Jésus à la croix, c'est ce qui unit. C'est comme un peu comme il y avait Jean et Marie. À un moment, Jésus va dire à Marie, voici ton fils, et à Jean, voici ta mère. Vous voyez, il va faire un lien entre les deux. Il va les unir. Et c'est l'œuvre de Jésus à la croix qui unit. Et la Bible nous dit qu'il nous faut nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, c'est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. » Et c'est la responsabilité de l'Église de travailler à l'unité. Alors, est-ce que l'unité, ça veut dire le compromis? Non, c'est ce qu'on a vu. Mais est-ce que l'unité, ça veut dire l'uniformité? Non plus. Parce qu'on peut être différent et pleinement uni à partir du moment où on reste dans la vérité. Et combien c'est important de nous efforcer, comme dit la Bible, de conserver l'unité de l'esprit. Parce que vous savez qu'on peut faire des choses qui peuvent altérer cette unité. Par exemple, c'est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 28, l'homme pervers excite les querelles et le rapporteur divise les amis. Proverbes chapitre 17, verset 9, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Attention, couvre une faute, ce n'est pas dans le sens tolère le péché, c'est-à-dire dans le sens où si c'est réglé, ça ne sert à rien d'en parler. Donc, celui qui couvre une faute cherche l'amour, mais celui qui la rappelle dans les discours divise les amis. Vous voyez, il y a des comportements, si je rappelle les fautes ou si j'excite les querelles, ben ça ne contribue pas à l'unité. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, c'est écrit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, c'est-à-dire la construction, et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous voyez ? Il faut faire attention aussi à l'attitude que l'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres. Tout à l'heure, on a lu effectivement que dans Matthieu 18, qu'il faut régler le péché. Et ça, c'est important. Vous savez, d'ailleurs, s'il y a le péché, il ne peut pas y avoir d'unité. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Je ne parle pas de péché ou de compromis. Vous savez que certains, pour l'unité, sont prêts à faire des compromis. C'est-à-dire que certains veulent tellement être unis qu'ils en sont prêts à tolérer le péché au nom de l'amour. Et ça, ce n'est pas bien. Parce qu'au nom de l'amour, tout le monde va être perdu. Mais par contre, quand il y a la sanctification et qu'il y a une unité qui est donnée par l'Esprit, juste après, dans Matthieu 18, après la discipline, c'est écrit « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, ou littéralement sont en harmonie, sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Vous voyez ? Dans Jean 13, verset 35, c'est écrit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et en fait, on voit vraiment un équilibre dans la parole de Dieu. C'est que d'un côté, il faut que le chandelier soit en or pur, sans mélange, sans péché, sans fausse doctrine qui soit tolérée ou des choses comme ça. Mais d'un autre côté, il faut travailler à l'unité avec ceux qui marchent dans la vérité. Et on voit un équilibre. Alors après, il y aurait bien d'autres choses qu'on pourrait dire. Notamment, on pourrait parler, alors j'ai dit de l'or battu. Ça, c'est les épreuves qui peuvent façonner. On pourrait parler de tous ces fruits qui sont décrits sur le chandelier. Où on voit au final que c'est le fruit de l'esprit qui permet aussi d'avoir ce bon témoignage. Et c'est à notre fruit que les gens autour de nous voient à quel point le Seigneur est bon. Et au final, le fruit, ce n'est pas mon œuvre à moi, c'est l'œuvre de Jésus dans ma vie, etc. Il y a plein d'autres sujets. En tout cas, c'était ces trois points que j'avais à cœur ce soir et que j'ai partagés. Oui, l'Église est un chandelier. Vous êtes appelé à être une lumière là où vous êtes. Mais pour être une lumière, il y a besoin de la présence du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit vienne et se manifeste, il faut la sanctification. Sans la sanctification, l'Esprit ne peut pas être présent dans une église et ça peut aller au point où le Seigneur Jésus est carrément dehors de son église. Mais aussi chercher l'unité, c'est-à-dire que dans la sanctification, travailler à l'unité. Oui, on est différent, Mais l'unité, ce n'est pas l'uniformité. L'unité, c'est être ensemble dans la vérité et que chacun mette au service de l'autre le don qu'il a reçu du Seigneur. Amen.
Merci, Michael. On va continuer à prier un petit peu. En tous les cas, sois béni et dans le Zoom aussi. Salut Amen. Les frères et sœurs de Toulouse.
Je les saluerai. En tout cas, merci pour votre accueil.
Merci à toi.
Et voilà, désolé de ne pas pouvoir rester plus longtemps, mais c'est vrai que
merci à toi.
L'agenda est serré. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas.
Merci.
Au revoir.